Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors pour cette émission de fin d'été, de fin de vacances pour ceux qui en ont pris, eh bien on vous emmène à Douarnenez dans le Finistère, presque au bout de l'ouest de la France. On vous emmène dans un endroit formidable qui s'appelle les Roches Blanches, un endroit où les gens peuvent venir être accueillis de manière assez inconditionnelle et vivre sans loyer, sans contrainte. C'est un lieu qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et qui est menacé. Alors c'est Gilles Brézard qui m'a appris cette information, la menace, le péril qui menaçait cet endroit où il a séjourné parfois. Et donc, eh bien, on va en parler ce matin dans Liberté sur Parole avec Georges qui est le porte-parole, l'un des porte-parole du collectif défend ce lieu. Georges, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un habitant des Roches Blanches et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les Roches Blanches? Je crois que c'est une ancienne colonie de vacances, c'est ça? C'est un collectif qui s'est installé il y a une quinzaine d'années dans une ancienne colonie de vacances désaffectée, comme il y en a beaucoup, ces fameux bâtiments des colonies de vacances à la pleine période de l'éducation populaire et des colonies de vacances, qui peu à peu deviennent compliqués à entretenir pour les organismes, pour les communes, et qui tombent un petit peu en déliquescence, qui fait du bâti qui est vide et convoité en général par beaucoup de promoteurs. Et quand ce n'est pas le cas, du bâti qui s'abîme, qui est abandonné et qui, par bonheur, peut parfois être investi par des gens pour y faire des choses chouettes.
Et ben oui, c'est exactement ça. C'est une ancienne colonie de vacances qui appartenait à un groupement de Lyon qui a été abandonné il y a une vingtaine d'années en arrière, qui est un peu tombé à l'abandon. Et il y a une quinzaine d'années, un groupe de gens a réinvesti ce bâtiment, a la retapé, a mis une menuiserie à l'intérieur, et puis progressivement, il y a d'autres gens qui sont arrivés, qui ont installé d'autres ateliers, une forge, une fromagerie, beaucoup de choses, et qui ont progressivement ouvert les 5 bâtiments qui sont sur ce bord de mer, là, et dans lesquels maintenant on habite. Du coup, c'est des bâtiments qui n'ont pas de propriétaire, parce que leur propriétaire est en liquidation judiciaire, a fait faillite. Du coup, on y habite assez paisiblement.
D'accord.
Avec une vingtaine de chèvres.
Très bien. Donc, il y a une cinquantaine de personnes. Le collectif, c'est une cinquantaine de personnes, avec des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui viennent temporairement, des gens qui sont là sur le plus long terme. J'imagine que les gens qui sont forgerons ou qui ont leur activité là, ils sont là vraiment de manière assez pérenne pour eux, en tout cas.
Il y a plein de gens très différents. Il y a effectivement des gens qui... Enfin, il y a une centaine de personnes, en réalité, qui passent dans le lieu en permanence parce qu'il y a effectivement des artisans qui utilisent les ateliers, des gens qui habitent pas forcément avec nous. Et nous, on pense qu'il y a des milliers de personnes qui sont passées par les Roches d'une manière générale. C'est vraiment un gros point d'entrée dans la ville de Douarnenez. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui n'ont pas d'endroit où se loger et qui, du coup, débarquent chez nous pendant un temps plus ou moins long avant de trouver des appartements en ville ou d'aller ailleurs. Notamment les gens qui font les ateliers de l'enfer, qui est une grosse école de charpente marine et de voilerie qui est à Douarnenez.
Et je me suis même laissé dire que parfois c'était Pôle emploi, maintenant on dit France Travail, pardon, et qui a orienté des gens vers les Roches Blanches en disant « Oui, alors vous venez d'être accepté dans cette formation, vous n'avez pas de quoi vous loger, c'est pas grave, allez voir les Roches Blanches, ils vont vous trouver un coin ».
Exactement. C'est une ville dans laquelle il y a une grosse crise du logement d'une manière générale, due à la touristification et à l'augmentation des résidences secondaires. Et du coup, nous, on est un point d'entrée qui a Pôle emploi qui est au du monde, mais il y a aussi France Travail. Mais il y a du coup aussi le CCS, la mission locale, la gendarmerie parfois, beaucoup de gens. Souvent les gens en bas de l'échelle qui sont face à des gens désespérés qui du coup leur disent de passer. Et du coup, ça fait que nous, on a une politique d'accueil assez forte. N'importe qui se présente au portail peut passer la nuit chez nous. Et puis après, dans un deuxième temps, on discute avec les personnes pour voir combien de temps elles veulent rester. Sinon, on est en capacité de les aider, parce qu'il y a aussi des personnes pour qui c'est un peu plus complexe. Et puis après, elles restent le temps de se retaper ou progressivement, elles se mettent à avoir des chambres à l'intérieur du bâtiment. On héberge un peu tout le monde.
Voilà. Et donc, vous jouez un rôle, et puis les institutions, quelque part, alors vous êtes squatter, c'est-à-dire occupant sans droit ni titre, mais pas sans raison. et en fait, vous le revendiquez, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça. C'est-à-dire que vous avez investi ce lieu, vous l'avez retapé, vous avez empêché qu'il se dégrade, et puis vous y avez construit une vie sociale aussi. Mais vous êtes reconnu quelque part par les institutions qui envoient des gens vers vous. C'est-à-dire que voilà, vous êtes aussi un lieu d'accueil reconnu comme tel, même si, alors je crois, on va parler hein, bien sûr de cette ville de Douarnenez qui est devenue extrêmement, qui est une ville qui a longtemps été communiste, ce n'est plus du tout le cas là. Madame Poitevin, je crois, est plutôt divers droite, hein, la nouvelle maire, enfin pas tout à fait nouvelle puisqu'elle avait déjà été maire au début des années 2000, je crois. Et donc du coup, il y a une politique, bon, moi je connais un petit peu Douarnenez parce que j'y viens au festival qui a lieu fin août, donc c'est à peine terminé. Le festival, vous y étiez d'ailleurs, donc c'est très touristique, c'est très joli, c'est très gentrifié, et il y a énormément de Parisiens qui s'y sont installés ou qui ont des résidences secondaires, qui ont acheté des maisons, qui ont fait monter les prix, et il y a beaucoup de Airbnb aussi. Du coup, c'est très compliqué pour quand on a un petit salaire, qu'on est aide à domicile, qu'on est ouvrier, de pouvoir y vivre en réalité.
Il faut un CDI, il faut des garants, il faut beaucoup de choses. Le marché immobilier, il est effectivement très très restreint dans cette ville-là, à cause des résidences secondaires, etc. Mais cette ville qui se touristifie, elle a quand même besoin de ses saisonniers, elle fait beaucoup son beurre sur la culture, qui est aussi des gens comme nous, elle a besoin d'ouvriers dans ses usines, et du coup toutes ces personnes-là ne trouvent pas à se loger, et on est effectivement une solution alternative. Après, on est une solution alternative, comme je disais, pour le bas de l'échelle, pour le... C'est la personne qui est au guichet de Pôle emploi qui va parler, parce que pour le coup, les personnes, les directeurs, etc., sont plus des gens qui vont aller nous taper dessus. Mmh. On a pas une reconnaissance au sein de la ville, mais aussi beaucoup parce que beaucoup de gens qui habitent cette ville et qui travaillent dans cette ville sont passés par chez nous à un moment. Et du coup, on a une reconnaissance qui est plus générale à l'échelle de la ville. Mais effectivement, la mairie plutôt de droite nous apprécie assez peu.
Mmh. D'autant moins, j'imagine, parce que j'ai eu l'occasion de lire l'année dernière ou l'année d'avant, il y a 2 ans, un livre d'un collectif, j'imagine, auquel vous avez, enfin, des gens des Roches Blanches ont participé, qui parlait justement de ce que c'était que d'habiter une ville touristique. C'est un livre réalisé par un collectif d'habitants qui décrivait un petit peu tout ce rapport de force entre des gens qui souhaitent vivre et travailler au pays, comme on disait et comme on aimerait pouvoir dire toujours, et puis une forme de prédation et d'hypercapitalisation qui fait que le logement est fait pour être rentable, c'est une ville de rentier en fait. C'est un petit peu ces deux mondes qui s'opposent.
Ouais. Mais c'est surtout une solution très lucrative à court terme de faire ça, mais pas du tout sur le long terme, parce qu'en enlevant toutes les personnes qui font vivre une ville, au bout d'un moment, elle perd tout ce qui faisait son charme d'antan. La Douarnenez est très connue pour son milieu de la culture, mais en enlevant... Enfin, on est des personnes relativement précaires à faire ce travail-là. Du coup, au fur et à mesure, on est obligé de partir, et du coup, cette ville va très certainement mourir au bout d'un moment... dans son petit tourisme. Et puis il y a un truc à Douarnenez, c'est que l'été c'est vraiment très très sympathique, mais l'hiver on est face aux tempêtes, on est face à beaucoup de choses, du coup c'est un choix de vivre ici, et beaucoup de personnes qui ont leur résidence secondaire prennent pas ça du tout en compte. Elles utilisent la ville, elles consomment la ville en été, et puis après il se passe plus rien.
Ouais, après c'est la ville, c'est la petite rue de l'enfer qui est inondée. C'est beaucoup moins bucolique quand il s'agit de résister aux éléments. C'est comme les gens qui vivent à la une maison de campagne où ils ne viennent que au beau jour. C'est tout le problème. Mais Douarnenez, c'est aussi une ville qui est connue parce que c'est une ville où il y a à peu près un siècle, il y a eu une grève totalement historique des femmes. Des peines sardines, des sardinières, une grève, un mouvement victorieux. Je crois que c'est aussi une ville où a été élue la première femme, alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote, une élue communiste. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ensuite on l'a renvoyée dans ses foyers, mais néanmoins, il y a eu une femme élue alors que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Enfin, c'est quand même une ville progressiste en ce sens-là, ou une ville de lutte.
Oui, Mais c'est une ville qui a toujours été un peu précaire. Et effectivement, il y a cette grosse lutte des fermières qu'on a fêtée l'année dernière, parce que les 100 ans, c'était l'année dernière.
Ouais.
Et qui, du coup, a effectivement ce passé de ville rouge assez fort, qui là, en train de disparaître. Effectivement, la mère est d'hiver droite. Nous, on a plutôt tendance à dire droite matérielle. Mais du coup, elle a vraiment une volonté, elle, de faire l'inverse de tout ce combat-là et de vendre, par exemple, la plupart des bâtiments. Dans la plupart des villes en Bretagne, il y a des endroits qui s'appellent les abris du marin, qui sont des endroits dans lesquels on peut décrocher de l'alcool et discuter avec les marins. Et à Douarnenez, ça a été vendu et ça a été une sorte de gros scandale il y a quelques années en arrière, parce qu'on perd progressivement tout le patrimoine et tout ce qui faisait la richesse de cette ville-là. Et aujourd'hui, on bénéficie quand même d'un large soutien à Douarnenez, nous, sur notre lutte des roches, et on a l'impression qu'on est quand même un peu héritier de tout ce mouvement-là, de volonté qu'il reste des espaces qui ne soient pas complètement pris par le capitalisme dans cette ville.
Non, mais c'est sûr, on va parler dans un instant du festival où vous avez vu des prises de parole, où vous avez projeté un film et de la manière dont votre lutte a été comprise par les gens, y compris qui viennent d'un peu partout. Je crois que cette année, c'était les peuples d'Amazonie qui étaient à l'honneur. Donc, du coup, l'occasion de sans doute peut-être aussi de se rapprocher d'autres luttes à l'international qui ressemblent aux vôtres. Mais avant, je voudrais qu'on écoute le chant des peines sardines que vous m'avez envoyé, Georges, mais que on écoute souvent sur cette antenne parce que voilà, le bruit des sabots, on aime ça. Tu nous l'envoies, Gilles?
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières. solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les femmes sont fières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Et voilà, c'était, vous écoutez toujours Cause Commune 93.1, c'est Liberté sur Parole. On est avec Georges qui est porte-parole du collectif Les Roches Blanches. Voilà, on pourrait. Les Roches Blanches, c'est un lieu qui est à Douarnenez, donc un lieu sans propriétaire, mais donc parce que celui qui avait racheté a fait faillite, donc sans propriétaire officiel, mais néanmoins, Georges, je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui s'est passé. Donc le 27 juin, vous achetez le journal et vous tombez sur un article qui raconte que votre lieu va être vendu, c'est ça?
Exactement, on a appris le 27 juin par voie de presse que on était mis aux enchères pour finir la liquidation de la fosse épi. Et du coup on a une audience le 3 septembre pour cette vente aux enchères.
Et donc ça veut dire que la mise à prix est de 200 000 euros et que c'est ouvert, une vente aux enchères, c'est ouvert à peu près tout le monde, c'est ça? Donc il peut y avoir vous qui allez essayer de racheter, vous avez lancé une cagnotte pour ça, on y reviendra, vous faites des appels à soutien pour essayer de racheter votre lieu. On pourrait imaginer que vous l'ayez pour 200 000 euros, mais on peut aussi imaginer qu'il y a un promoteur qui mette 300 000 et qui essaye de vous mettre dehors.
Exactement. On pourrait aussi imaginer qu'on l'a pour 100 000 euros parce que les enchères vont descendre s'il n'y a pas d'autres deux personnes.
Ouais, c'est bien. J'avais pas cette hypothèse, c'est pas mal. Mais bon, néanmoins, la menace plane, quoi. Parce que c'est quand même des beaux bâtiments. C'est un peu comme Gaza. Ça pourrait faire je peux pas m'empêcher de parler de Gaza tout le temps. Ça pourrait faire un beau complexe touristique. Donc, il y a forcément des gens qui vont avoir un appétit pour ça, sans souci des personnes qui y vivent.
Mais nous, on aurait bien aimé être prioritaire sur cette vente. Déjà, on est, en tant qu'occupant, on n'a pas vraiment le droit.
Vous n'avez pas vraiment le droit d'être prioritaire sur cette vente?
Ouais. En fait, jusqu'à présent, la vente, elle pouvait être réservée que à des gens qui avaient un numéro de SIRET, qui n'était pas notre cas. Et là, du coup, la vente aux enchères, c'est la première fois que nous, on a la possibilité de rentrer dans le jeu et d'essayer d'acheter. C'est la raison pour laquelle là on va essayer de le faire. Mais effectivement, on ne sait pas qui c'est qu'on va avoir en face de nous. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un possible report de la vente qui va sûrement être acté le 3 septembre, puisque l'huissier n'a pas réussi à faire les visites, en grande partie parce qu'il n'a pas communiqué avec nous, parce que sinon je pense qu'on l'aurait laissé faire. Mais en tout cas, la fosse épi et le mandataire, etc., on peut être contact avec nous.
D'accord.
Malgré nos essais à nous de notre côté pour essayer de discuter avec eux. Pendant plusieurs années, on leur a demandé un bail emphytéotique. Enfin, ils sont
même un bail d'occupation temporaire, des choses comme ça, se fait.
Oui, oui. On avait demandé toutes ces choses-là, on les a jamais eues. Et du coup, aujourd'hui, on va à cette vente aux enchères. Nous, on aurait préféré une vente normale dans laquelle on aurait pu participer.
Ouais.
Parce que là, le problème de la vente aux enchères, c'est que même si on réussissait à réunir la somme, et pour l'instant, on a envie d'y croire, même si on a toujours besoin d'une grande mobilisation. On ne sait pas qui va enchérir par-dessus nous. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les bâtiments, ils sont pas vraiment faits pour accueillir des touristes de haut de gamme dans leur état, et que du coup, le rachat sera complexe d'une manière générale, parce que déjà, il faudra passer à travers nous, donc nous lancer une procédure d'expulsion, qu'on va essayer de contrecarrer avec nos outils à nous, et puis ensuite il faudrait détruire et reconstruire l'identique, ce qui demande beaucoup d'argent. Mais la situation géographique du lieu fait qu'on est vraiment au-dessus de la mer, sur le sentier des douaniers, le GR34, et du coup on bénéficie d'une vue et qui est absolument magnifique. Et donc on se dit que quelqu'un de potentiellement riche pourrait tomber autant amoureux de la vue, sans non plus savoir à quel point les tempêtes sont sévères. Mais
Oui, mais donc il y a possibilité, ça peut être un investissement, voilà, ça peut être un lieu de spéculation.
Ça peut complètement être ça, et ça s'est déjà vu beaucoup de fois dans cette ville-là.
Bah oui.
Nous, on essaye de faire comprendre aux investisseurs que ce serait sympa de nous laisser déjà. Mais aussi, il y a eu plusieurs projets abandonnés ces dernières années qui ont échoué parce que manque de personnes pour acheter derrière, notamment la colonie du Mans qui est juste en bas de chez nous, qui elle a ses travaux qui sont à l'arrêt parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de personnes pour vivre dedans.
Oui, donc c'est pas si facile en fait. C'est pas si facile et c'est peut-être pas un si bon plan que ça. Disons-le haut et fort et redisons-le. Mais est-ce que.
On a peur que ce soit quand même une sorte de combat politique d'essayer de nous virer par principe, parce qu'on représente quand même un idéal de vie un peu à la marge. Qu'un certain nombre de personnes détestent par principe.
Ouais, c'est ça. Effectivement, vous représentez des idées de gratuité, des idées de non-propriété, des idées de collectivité, des idées d'ouverture et de tolérance. C'est pas du tout à la mode, pardon de vous le dire. Ouais, mais néanmoins, est-ce que y a pas dans un monde pas idéal, mais un peu moins pire que celui-là, est-ce que on pourrait pas imaginer qu'il y ait une préemption des pouvoirs publics, notamment, je pense, de la commune, si c'était pas
ça, c'est la deuxième étape.
Ouais.
Effectivement, donc du coup, s'il y a une vente, il y aura de nouveau un propriétaire et à partir de là, il peut y avoir le droit de préemption pendant les deux mois suivants. Nous, on a effectivement peur de ça de la part des pouvoirs publics par principe, même si ça demande de l'argent. On a aussi un peu peur que le conservatoire du littoral essaye de reprendre le bâtiment pour renaturer la côte. Et nous, on aime beaucoup le conservatoire du littoral, on trouve ça vraiment très bien ce qu'ils font, mais on préfère quand ils prennent des bâtiments vides, mais le nôtre l'est pas. Mais ce sera effectivement une autre étape qui nous attend, c'est un chemin un peu complexe. On s'est formé là depuis un mois sur toutes ces choses de propriété, etc. Aucun d'entre nous ne pensait devenir propriétaire à un moment de sa vie.
Bah oui.
Et là, aujourd'hui, on est obligé de réfléchir à des montages, à toutes ces choses-là. Et on espère qu'on va réussir à passer à travers avec beaucoup de bienveillance.
Oui, c'est sûr que c'était pas votre projet de devenir propriétaire. Vous vouliez vivre et occuper un lieu vide. Et effectivement, c'est une vision du monde aussi, hein. Et c'est ça qui est combattu. Vous venez de le dire et très très bien. Et c'est pour ça que vous avez dû aussi préparer des réponses que j'ai lues dans votre dossier de presse. Hein, j'invente rien. Au fait que si c'est préempté, ça va pour. Il y aura une forme d'acceptation de cette préemption et de votre expulsion qui pourrait être justifiée par on va faire des projets culturels, on va faire des projets respectueux de l'environnement, on va faire exactement tout ce que vous faites, mais sans vous.
Exactement. Nous, on essaie de montrer au pouvoir public qu'on est d'intérêt général et qu'on fait déjà toutes ces choses de façon plus ou moins gratuite et que ce serait un peu ridicule de nous enlever. On est un terreau qui est assez fertile là-dessus. Et notamment pour ces choses écologiques, nous on a des chèvres et du coup le travail de pâturage, enfin vu que les chèvres pâturent sur le lieu, elles font le travail de la biodiversité, de renouvellement des terrains, etc. qui fait qu'on dérange pas cet endroit, on a des toilettes sèches, on rejette pas nos eaux grises. On a effectivement trois petits travaux à faire dans le futur d'assainissement un peu mieux, mais on a une fosse septique, on a toutes ces choses-là. Mmh. En tout cas, c'est des choses qui sont beaucoup critiquées et nous, on se dit qu'on a vraiment une utilité très forte au sein de cette ville-là. Déjà parce qu'on est la plupart d'entre nous travaillons dans des domaines qui sont sous-payés, sous-financés, qui sont l'artisanat, la culture, le social ou la paysannerie. Et du coup, on accepte de faire toutes ces choses-là plus ou moins bénévolement, etc. Et on ne voit pas quel projet pourrait être meilleur que le nôtre sur ces endroits-là. Ou alors ce serait réservé à une autre population. Mais la plupart des spectacles qui tournent en Bretagne sont fabriqués chez nous. Enfin, pas la plupart des spectacles en Bretagne, mais une partie des spectacles sont fabriqués chez nous et ensuite sont revendus à des grands festivals. Il faut des espaces de création, des espaces où les gens ont le temps de le faire. Mmh. Comme il faut des espaces sociaux, parce que nous, on se dit souvent qu'on peut pas interdire les personnes précaires. C'est trop facile. On fait que se déplacer. Et là, pour une fois, on a envie de rester là où on est. Mmh.
Et justement, bah, là où vous êtes, c'est là, et vous faites partie de cette ville et de la vie culturelle et sociale de cette ville, et de la vie économique aussi, et de la vie, enfin, l'économique au sens un peu noble du terme, pas l'économie d'accaparement, l'économie qui fait tourner, qui fait vivre, qui
Mais
fait.
Les salaires vont effectivement dans l'économie très locale.
Voilà, c'est coup, ça. Et vous étiez présent au festival donc de Douarnenez, festival de cinéma, festival des peuples du monde, qui a lieu chaque année depuis, oulala, plus de 40 ans, hein, c'est ça,
ouais.
Qui est aussi en difficulté, d'ailleurs, ce festival. C'est pas la première alerte, mais là, bah, effectivement, on sait que les budgets de la culture sont réduits à peau de chagrin, délibérément, et donc bah, le festival de Douarnenez ne fait pas exception. C'est pourtant un moment d'exception dans cette ville, puisque on a l'occasion d'y croiser des partenaires de lutte qui viennent de plein d'endroits du monde, d'y voir des films qui racontent des histoires qui, même si elles se passent très loin, ressemblent aux nôtres, de croiser aussi différents types de populations, différents types de genres, différents types de couleurs de gens, et ça fait un bien fou. Donc, vous y étiez bien évidemment au festival, voilà, qui est ouvert aussi sur les sourds, qui est ouvert sur la Bretagne, qui est ouvert sur les questions de genre, qui est ouvert. Enfin voilà, chaque année, il y a un peuple qui est invité, mais il y a aussi ces thématiques qui sont récurrentes, notamment celles liées au genre. Et donc, c'est aussi un rendez-vous important auquel vous participez, j'imagine, depuis la création du collectif et des Roches Blanches. Vous êtes notamment sur les questions de logement, je crois, cette année, vous étiez très présent.
Oui. Ben, on a bénéficié d'un grand soutien du Festival du cinéma de Douarnenez. On les remercie beaucoup pour ça. Ils nous ont donné la possibilité de diffuser un film qu'on a fait en pas très longtemps. Enfin, il y a une réalisatrice qui était chez nous et qui prenait des images depuis à peu près 2 ans et qui a fait un montage et qui a réussi à prendre les paroles des personnes sur le dernier mois, depuis l'annonce de la vente, et du coup on a diffusé ce film-là.
Alors ce film qui s'appelle Nous sommes les murs qui nous tiennent, j'adore ce titre, j'aurais aimé le voir, hein, Georges, je vous le cache pas, je l'ai pas vu, je suis très frustrée, mais bon, on aura peut-être l'occasion de le voir à Paris.
On est là en exclusivité au festival, ouais. Et on imagine que dans le futur, on va mettre un lien, et qu'on va faire...
Ouais, il faut faire des séances partout, vraiment, parce que c'est une problématique qui est, évidemment, qui est à Douarnenez de mener aujourd'hui, mais en même temps des lieux comme le vôtre, voilà, il faut affirmer leur légitimité, je pense, et je pense que voilà, il y en a besoin partout en réalité.
Mais ça, le festival l'a fait. Du coup, il y a d'autres collectifs en lutte sur ces questions-là spécifiques de logement qui étaient présents au festival, notamment les personnes des Lantières à Dijon.
Ouais.
Et on a réussi à faire des choses croisées avec ces personnes. Donc on était invités à la projection des Lantières pour parler aussi de notre situation. C'est des gens qui, pareil que nous, sont là depuis 15 ans et sont menacés d'expulsion maintenant, en tout cas en octobre.
Mm-hmm.
Et puis on a été invité à des tables rondes sur la montée de l'extrême droite, sur la mémoire des luttes, on a été invité à la radio. Et puis c'est effectivement un très bon moment pour rencontrer plein de gens et plein de luttes.
Et la radio, juste le signal, c'est Vos gueules les mouettes, hein, c'est ça. La radio est éphémère du festival, ça s'appelle toujours Vos gueules les mouettes.
Exactement.
On les salue et on les embrasse. Et donc bon accueil, et vous avez réussi à vous faire entendre votre voix et votre philosophie, si je puis dire.
Oui, en tout cas, on est face à des gens qui sont plutôt bienveillants sur ces questions-là, en tout cas le public du festival. On avait aussi une place au Village des Solidarités où on pouvait vraiment échanger avec les gens qui passaient, expliquer notre situation. Il y a un truc avec les Roches Blanches, c'est qu'on a toujours été très discrets. Notre politique a toujours été la discrétion. On vit un peu à l'extérieur de la ville et on n'embête personne. Et du coup, c'est quelque chose pour nous qui est assez spécial de nous médiatiser d'un coup, de devoir parler et d'expliquer nos situations. Du coup, on a effectivement bénéficié de ce petit coup de projecteur du Festival du cinéma, et puis on espère que dans le futur, ça va redescendre un peu.
Mais alors, vous avez aussi une façon, vous n'avez pas non plus envie d'être envahi de journalistes qui viennent faire des sujets de 3 minutes. Vite fait, vous avez fait une conférence de presse à l'extérieur du lieu. Vous signalez sur vos réseaux que, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas un zoo, enfin, pardon de le dire comme ça, mais voilà, vous êtes un lieu de vie, que des gens vivent et qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des caméras qui débarquent ou des micros qui débarquent chez eux. Donc, l'idée n'est pas de venir non plus filmer ou vous interviewer à tout bout de champ à vos portes. L'idée, c'est que c'est vous qui maîtrisez un petit peu, qui donnez les informations et qui... et j'imagine qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de se reposer, qui viennent aussi parfois aux Roches Blanches, donc pas forcément des gens qu'on va sursolliciter.
Oui, mais effectivement, on a plutôt interdit aux journalistes l'accès à notre lieu. Mais beaucoup parce que ça correspond à notre domicile. Beaucoup de gens n'aimeraient pas que des journalistes rentrent chez eux. Oui. Ben nous, c'est chez nous, techniquement. Et du coup, c'est effectivement cet endroit où on se repose, on a notre vie, où parfois c'est un peu le bazar, mais c'est un bazar normal et quotidien. Et du coup, il y a une peur que ces choses soient transformées, etc.
Donc, ouais, j'imagine pas si des journalistes venaient chez moi. Effectivement. Oui, enfin, tout peut être utilisé, bien sûr, dès qu'on fouille dans l'intimité des gens, tout peut être absolument utilisé, instrumentalisé. Et donc, c'est une politique tout à fait respectueuse. Et puis, si les gens veulent voir comment c'est, veulent entendre votre parole, il y a le film, et puis on peut vous téléphoner, comme on a fait aujourd'hui.
Exactement. Et puis, pour les gens qui habitent autour de Dornenay, nous, régulièrement, on fait des petits événements chez nous, des concerts ou des projections, et du coup on invite plutôt les gens à venir nous voir dans ces moments-là. Mmh. Où, pour le coup, tous les habitants et habitantes savent que l'extérieur va passer le portail et du coup sont là pour discuter, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est de gérer le quotidien, etc. Parce qu'on est une cinquantaine de personnes à vivre sur place, on a plein de vies très très différentes.
Tout ça n'est rien d'extraordinaire. Enfin, j'allais dire, c'est absolument extraordinaire ce que vous faites et la manière dont vous vivez, parce que c'est totalement non conforme aux normes qu'on veut nous imposer. Mais en fait, moi, je dirais, c'est aussi totalement logique et normal. Enfin, voilà. Et donc, je propose qu'on va écouter un peu de musique que vous avez choisi. Et merci à vous, Georges, mais à tous nos invités de nous faire découvrir des musiques que je ne connaissais pas. Là, on va écouter, je ne sais plus, je le dirai après, mais écoutons. Et moi, j'ai adoré.
Petit échauffement vocal là, pour pas finir comme Renaud. Et c'est y parler.
Ça fait 4 ans que j'habite là, et la sonnette indique encore Daniel Boujard, et je précise au cas où, mais je m'appelle pas comme ça. L'électricité pétée, les chiottes et la douche qui fuit, ça irait plus vite si je listais ce qui fonctionne ici. Après, je sais pas, je suis peut-être un peu matérialiste, exigeant, mais des fois, j'avoue, j'ai l'envie chelou d'habiter un jour dans un endroit qui essaye pas de me tuer, parce que là tout se pète la gueule et je suis pas du genre inquiet. Non, mais est-ce que c'est normal que le plancher soit par là? Dans mes souvenirs, c'est censé toucher le bas des murs et tenir vaguement sous les pieds. Après, je sais pas, moi j'y connais rien, t'sais, c'est peut-être ça l'architecture new wave. Et des fois, j'avoue, j'ai l'envie chelou de me tirer loin de ce piège à rats et de pouvoir gueuler. Adieu la merde, on efface tout et on recommence. On se tire ailleurs, c'est grand la France. Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là, là, là. Ah si, je vois peut-être pourquoi. Sûrement parce que j'ai pas une thune. La la la.
Ok, on y retourne.
T'as vu la masse de gens qu'il y a qui crèvent dehors. T'as vu la masse de familles dans des tentes de place. T'as vu la masse de pauvres expulsés par la force. Et la masse de baraques vides. T'as vu les parents chéris qu'il te faut pour un toit. T'as vu le salaire de ouf qu'il te faut pour un toit. T'as vu l'énorme masse de thunes que ces bâtards font sur toi. Et des fois, j'avoue, j'ai l'envie chelou que les agences immobilières soient pas possédées par Satan. Adieu la merde. On efface tout et on recommence. On se tire ailleurs, c'est grand la France. Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là, là, là. Ah si, je vois peut-être pourquoi. Sûrement parce que j'ai pas une thune. La la la. La la. Du 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 du. Pardon. Et les camps de migrants et les squats, on en fait des Carrefour City. On adore, on aime ça tout raser pour faire des Carrefour City. Et les HLM, les forêts, on en fait des Carrefour City. C'est meilleur que le cul, meilleur que l'amour, construire des Carrefour City. Et quand l'univers sera plus qu'un grand Carrefour City, peut-être bien qu'ils nous manqueront, nos vieux taudis moisis. Mais en attendant, on crève sous l'amiante et les champis. Et personne, non personne, nous écoute quand on crie adieu la merde. On efface tout et on recommence. On se tire ailleurs, c'est grand la France. Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là, là, là. Ah si, je vois peut-être pourquoi. Sûrement parce que j'ai pas une thune.
Eh ben, cette chanson formidable, c'est une chanson de Joe et Gluten. Ça s'appelle Adieu la merde. Et vous écoutez Cause Commune 93.1. Cette chanson a été choisie par Georges, le porte-parole des Roches Blanches de Douarnenez. Alors, moi, je connaissais pas.
On est plusieurs.
Oui, l'un des porte-parole, bien sûr. Vous êtes au moins trois sur les communiqués de presse. Mais bon, c'est sur vous qu'on est tombé parce que vous êtes amis avec notre réalisateur chéri. Donc, c'est comme ça. Il parle de vous, là, ce chanteur, Joe Gluten.
Oui. Pour le coup, je conseille très fort d'écouter tout ce qu'il fait.
Mais ouais.
Il parle très bien des précaires, il est plutôt très drôle.
Ah ouais, ouais, ouais. Et on salue au Carrefour City qui est à côté de l'office du tourisme de Douarnenez, d'ailleurs.
Ah oui, nous on est très fort en Carrefour City.
Ouais, ouais, absolument. Parlons un peu. On va terminer l'émission sur la manière dont on peut tous, vous aider. Mais voilà, vous aider, c'est nous aider. Hein. C'est pas juste vous filer de la thune pour que vous puissiez acheter votre petite maison. L'idée, c'est de défendre un mode d'existence qui est un petit peu différent de celui qu'on nous impose, qui est un peu différent de la propriété obligatoire, même si paradoxalement, si on vous file de la thune, c'est pour acheter votre lieu de vie, mais en même temps, c'est pour que continue la possibilité d'une vie un petit peu différente que la vie bien rangée et bien normée et qu'on voudrait pour chacun.
Ouais, l'idée, c'est un peu de sortir le lieu du marché immobilier, ouais. De réussir à faire en sorte qu'il soit protégé. Pour le coup, nous, on est en train de montrer des structures juridiques pour que ce soit un peu carré, que on puisse le sortir et après continuer à vivre.
Est-ce
et
que
puis
la
nous,
loi...
on encourage tout le monde à faire comme nous, parce que payer autant de loyers, c'est un peu triste.
Oui, c'est un peu triste et un petit peu ça empêche aussi surtout de faire autre chose. C'est-à-dire que ça contraint beaucoup. Ça contraint dans quand on est salarié, par exemple, quand on sait que si on ne paye pas son loyer, on risque d'être expulsé, on peut hésiter à ne pas aller travailler une journée pour faire grève ou pour mener une action syndicale. On est parfois un petit peu enchaîné à un emploi salarié quand on a un loyer à payer, par exemple, ou des traites à payer ou de l'argent à payer de manière un peu vitale pour avoir un toit sur la tête. Tout ça est lié, en fait. Tout ça est lié et la mobilisation sociale est freinée aussi par ces dépenses contraintes.
Ah oui, et bien le gouvernement a vraiment beaucoup durci ces choses-là. On sait que si on perd son logement, après le logement social est saturé, le logement privé est saturé, enfin tous les parcs de logements sont saturés d'une manière générale.
Et le logement d'urgence aussi est saturé.
Les squats, elles sont très très fortes. Nous, on bénéficie aussi d'un squat qui a une quinzaine d'années sur lequel on peut pas avoir des procédures actuelles, mais ouvrir des nouveaux bâtiments, c'est...
Oui, bon, on se souvient de la loi Casparian.
Et il n'y en a pas chez vous, sauf la parole errante.
Ouais, absolument, absolument. Il y a la parole errante, ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Puis la loi Kasparian a réussi aussi à précariser encore plus les locataires qui sont en difficulté, même pour payer un loyer, qui deviennent automatiquement des squatteurs. Enfin, il y a eu toute une propagande sur le squat. C'est pour ça que vous vous revendiquez l'idée de squat. C'est-à-dire, bon, on est quand même dans une ville, j'ai noté le chiffre quelque part, où il y a 50 3% de, enfin, le nombre de logements de ville a augmenté de 53% en 20 ans à Douarnenez. Donc ça veut dire que c'est comme à Paris, des logements, enfin des espaces vides, il y en a. Et il y a autant de gens à chaque fois. Enfin voilà, quand on revient à Paris après quelques jours ou quelques semaines en dehors de Paris, on est effaré par le nombre de gens qui vivent dehors ou qui sont dans la misère, oui. En fait. C'est assez
vrai
fou.
Que le nombre de logements vides est équivalent au nombre de gens à la rue. Et quand je dis logements vides, j'exclus les maisons vides à la campagne. C'est vraiment toutes les choses dans les zones tendues.
Ouais.
Mais on a des lois très fortes contre les squatteurs et on n'a pas de loi forte contre la spéculation et les bâtiments vides.
C'est sûr.
Ils ont très bien choisi leur combat en face.
Ouais. On ne sait pas trop pourquoi, mais... Enfin, voilà, en tout cas, c'est contre l'intérêt.
On a choisi notre aussi, du coup.
Voilà, on choisit notre aussi.
On a décidé que si on devait mourir, on mourrait avec grand bruit.
Voilà. Mais on n'en est pas encore là, parce que, déjà, vous essayez de sensibiliser. Vous, non seulement, vous vous êtes formé au juridique, mais il y a eu ce livre qui est sorti il y a 2 ans, qui théorise, explique, détaille un petit peu les mécanismes qu'on vient d'évoquer rapidement, là, qui font qu'on exclut de plus en plus les précaires, qui sont les précaires, qui sont les utiles aussi. Hein. C'est pas, on parle pas de parasites, hein. On parle de gens qui font de la solidarité, qui font de la culture, qui font de l'artisanat, qui nous nourrissent. Voilà, on parle d'essentiel. J'ose pas dire de première ligne parce que ça a été un petit peu galvaudé comme terme, mais voilà, de gens qui font la vie en fait, mais qu'on veut invisibiliser et punir presque. Et donc, vous avez détaillé tous les mécanismes d'exclusion, déjà. Maintenant, vous détaillez aussi, peut-être, vous visibilisez plus l'alternative que vous proposez. Et vous montrez que ça fait 15 ans, donc c'est possible. Voilà, vous n'êtes pas entretué. C'est pas un lieu plein de je sais pas quoi, moi. Voilà,
non, c'est... non, l'autogestion, c'est pas simple, mais ça marche quand même assez bien. Je trouve qu'on a assez peu confiance en nous, mais en réalité, ça marche plutôt.
Absolument. Et puis franchement, même s'il y a des trucs qui marchent pas, moi j'habite dans un immeuble banal, il y a plein de trucs qui marchent pas. Hein. Dans tous les endroits, il y a des trucs qui marchent pas. Enfin, citez-moi un endroit, une famille qui n'est pas dysfonctionnelle, un truc. Enfin, tout est dysfonctionnel, mais bon, c'est un peu la vie qui est comme ça. Donc, c'est ni mieux ni pire qu'ailleurs, mais plutôt mieux quand même. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut tenter dans la période actuelle où, je sais pas, il y a des actes de résistance qui se dessinent pour la rentrée. Là, il y a quand même une révolte qui gronde. Je crois qu'on en a tous un petit peu assez de nous faire imposer un discours, des réductions de tous les droits, des privilèges qui ne font que s'accumuler pour un petit nombre et puis la masse qui doit toujours payer plus et avoir moins de droits et moins de santé et moins de services publics. Donc, et toujours moins de collectifs et toujours moins de culture. Bon, je pense qu'on en a tous un petit peu marre et que la manière dont vous vivez est une réponse à ça.
Oui, je pense aussi. Et nous, on sera solidaires de toutes ces luttes-là. À la rentrée, il y a vraiment une volonté du gouvernement de faire en sorte qu'on tape sur plus pauvre que soi.
Ouais.
Et je pense que les gens commencent à se rendre compte que ce serait plus intéressant de s'aligner sur nous, qui payons peu de loyers et qui vivons ensemble, plutôt que d'essayer de nous taper dessus.
Mm-hmm. Oui, puis surtout, bon, il y a peut-être d'autres cibles, en fait, qui passent totalement inaperçues, qui sont totalement invisibilisées. Enfin, je veux dire, le plus gros budget de l'État, c'est quand même les subventions faites aux actionnaires des grandes entreprises. C'est vraiment le plus gros budget de l'État. C'est plus que la Sécu, c'est plus que l'armée, c'est plus que, pour parler des choses qui fâchent, c'est plus que l'éducation nationale. Voilà. C'est quand même le premier budget de l'État, c'est de faire des cadeaux aux actionnaires. c'est quand même assez dingue que personne ne rappelle ça à chaque instant. Et tout le monde, adhère, plus ou moins, en tout cas dans les médias mainstream, on prend comme acquis le fait que oui, il faut trouver tant de milliards et donc il faut absolument faire des économies. Eh bien, faisons-les, mais faisons-les où il faut et faisons autrement surtout. Voilà.
C'est vrai que le jour où ils nous écouteront, ils verront qu'on a beaucoup d'idées.
Non seulement ils vous écoutent, ils vous regardent. Donc parlons des choses clairement. Il y a une pétition qui circule. On la trouve où et elle dit quoi?
Il y a une pétition qui circule sur change.org. Il y a une cagnotte qui circule et voilà, c'était bien. Et on a un Instagram dans lequel on met toutes les informations et où il y a tous les liens un peu. Mais peut-être je vous les redonnerai pour que vous les mettiez quelque part.
Oui, absolument. On les mettra dans la description de cette émission sur le site de Cause Commune. Et tous les gens qui réécouteront l'émission pourront y avoir accès. La cagnotte, vous en êtes où? Vous espérez récolter combien? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas milliardaire et que vous n'avez pas chacun pu mettre 50 000 balles pour acheter la maison. Mais vous en êtes où?
La cagnotte, elle s'approche des 67 000.
Et c'est pas mal.
Moi, je vois 66 810. Et elle a surtout un peu moins de 600 contributeurs. Et du coup, c'est ce qui nous fait vraiment chaud au cœur, c'est que nous, on a envie de massifier des petits dons. Plus que de chercher des gros donateurs, on préfère parler à notre famille élargie de toute la France et de tous ces lieux qui fonctionnent ensemble et de dire « finançons-nous un petit peu et on va réussir ». Là, non, on n'est pas si pessimiste concernant l'argent, puisqu'on va avoir des dons et que là, on commence à réfléchir à un système de prêt.
Ouais.
Mais si vous avez envie de faire grossir cette petite cagnotte, on sera ravis.
Eh ben, on fait un appel à tous les auditeurs qui ont envie que ce lieu vive et que ce lieu qui est le symbole de d'autres choses que ce qu'on nous propose en termes d'existence, de surconsommation, d'une existence où il faut être tributaire d'un loyer, tributaire d'acceptation de beaucoup trop de contraintes qui nous empêchent de penser et de vivre librement. Donc, ceux-là peuvent donner. Je crois que la pétition a recueilli aussi pas mal de signatures. Pour les gens qui ne peuvent ou ne veulent pas donner, c'est possible aussi de la signer parce que ça fait masse.
Oui, oui. Mais il y a eu 2000 signatures, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Elle n'est pas ouverte devant moi, mais...
C'est pas mal. Ça veut dire que quand même des gens l'ont lu, des gens ont envie de poser leur nom, de vous défendre, en tout cas. Et quelle relation vous avez, du coup, avec la mairie? J'ai l'impression, de ce que vous m'avez dit là, de ce que vous nous avez raconté, que le jeu des pouvoirs publics, c'est de faire comme si vous n'existiez pas, en fait. Est-ce que vous avez pu éventuellement essayer de rencontrer les pouvoirs publics, je sais pas, moi, la mairie, le département, la région?
Eh ben, pour le coup, on les a contactés. On a demandé un rendez-vous avec la municipalité, donc la maire et le service d'urbanisme. On n'a pas de réponse pour le moment, on attend. On a demandé un rendez-vous avec le conservatoire du littoral, et pour le coup, le rendez-vous va avoir lieu. Et puis, on va essayer de dialoguer avec les autres. D'une manière générale, on a à peu près compris qu'eux n'avaient pas très envie de nous parler, donc nous, on va faire la démarche d'aller vers eux. Mais on a peu d'espoir envers ces gens-là parce que c'est plutôt des politiques anti-précaires qui sont mises en place dans le Finistère.
Ouais, absolument.
Mais on espère... Nous, on a envie de dire à tout le monde que tout se passera très bien si on nous laisse faire. On n'a pas du tout envie de devenir des méchants de l'histoire.
Il n'y a pas de raison.
Du coup, on espère que les pouvoirs publics vont juste être un peu émus par notre cas et nous laisser vivre là.
Ouais, absolument. Mais de toute façon, les méchants de l'histoire, ça fait quand même 15 ans que vous ne l'êtes pas, les méchants de l'histoire, effectivement. Donc, il n'y a pas de raison que vous le deveniez. Par contre, bah, voilà, c'est normal aussi de se défendre et de ne pas se laisser expulser, enfin, de ne pas prendre les devants d'une expulsion. Ça, c'est malheureusement, c'est beaucoup trop souvent le cas de précaires qui, par dignité, par peur, ça a été étudié, hein, s'en vont avant même d'avoir épuisé tous les recours, parce que c'est épuisant aussi cet affrontement, mais vous avez l'avantage d'être nombreux.
Oui. Oui, on a l'avantage du nombre, effectivement. Et puis, beaucoup d'entre nous ont vécu des situations complexes à des moments de leur vie, ont déjà vécu des expulsions, etc. Et du coup, on a envie de pouvoir utiliser... Enfin, que ça se passe pas aussi simplement. Et puis, on a l'impression qu'on habite dans un endroit qui a une bonne possibilité de médiatisation, parce que beaucoup de gens sont passés, parce que 15 ans d'existence. Et du coup, on se dit aussi que si nous, on fait du bruit, ça aidera forcément les autres derrière. Et que, du coup, c'est vraiment une boucle de nous battre.
Vous parliez tout à l'heure des spectacles qui ont été créés dans ce lieu. Vous avez quelques exemples que vous pouvez nous donner comme ça? Vous avez des souvenirs de moments, de création, de choses que vous avez vu naître et qui ensuite ont pris leur essor un petit peu ailleurs?
Oui, mais je ne sais pas à quel point je peux citer ces personnes, mais à Aurillac, on a effectivement vu des spectacles qui étaient en création chez nous. Il y a pas mal de concerts qui ont lieu dans le coin, de gens qui s'entraînent. Je sais pas à quel point je peux
Non, bien sûr, je veux pas outer quoi que ce soit, ni qui que ce soit.
Après. Ouais. Ça se balade.
Voilà, bah, on écoutera en fin d'émission, on écoutera Fleur del Fango, parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé dans un squat parisien qui s'appelait la Grange aux Belles. Justement, voilà, c'était un petit peu dans cet esprit que je vous demandais ça, mais pas du tout pour outer qui que ce soit. Mais c'est vrai que parfois, voilà, c'est des lieux de jolie fermentation et on a envie de, enfin voilà, de dire que c'est né là, et peut-être que des gens s'en revendiquent d'ailleurs ou s'en revendiqueront.
Oui. Enfin, assurément. Et puis, vu qu'on est aussi un lieu qui vont faire tourner les spectacles, il y a beaucoup de spectacles de copains dans toute la Bretagne qui viennent, entre guillemets, s'entraîner chez nous. Mm-hmm. Nos lieux sont en lien d'une manière générale.
Mm. D'accord. Il n'y a que des adultes qui vivent aux Roches Blanches, ou il y a aussi des familles, des enfants?
Il y a des enfants.
Ok, très bien. Eh bien,
c'est un bon endroit pour grandir.
Bah voilà, c'est ce que je me disais. Je me disais, tiens, j'ai pas d'enfants, mais si j'en avais, j'aimerais bien qu'ils traînent dans ce coin-là. Ouais, c'est un bel endroit pour grandir, effectivement, pour former des vrais citoyens, pour former des gens libres. C'est pas mal, voilà.
Donc, et avec du caractère. Les enfants chez nous ont du caractère.
Voilà, très bien, les enfants avec du caractère, mais ça, on en connaît. C'est super. Merci beaucoup, Georges. On va se quitter en écoutant un autre de vos choix musicaux. Alors, c'est du rap, ça s'appelle Que la ville brûle, je crois.
Exactement. Et du coup, c'est une personne qui fait du rap et qui, pour le coup, habite à Douarnenez et qui est en lien avec nous. C'est aussi pour ça que je t'avais.
D'accord, c'est Azeh Muzazi, hein, c'est ça?
Exactement.
Eh ben, je la connaissais pas. Et franchement, c'est top. Et du coup, j'ai écouté les deux que vous aviez. Voilà. Merci pour cette ouverture musicale aussi. J'étais vraiment ravie. Enfin, non, mais c'est pour ça que je demande, en fait, aux invités, parce que, déjà, ça évite que nos auditeurs écoutent toujours la même chose que moi j'écoute. Et du coup, ça fait découvrir plein d'autres choses. Et c'est vraiment chouette. Eh bien, Georges, vous nous tenez au courant peut-être on vous repassera un coup de fil après le 3. Ou quand tu auras une nouvelle date de vente aux enchères. En tout cas, on va tâcher de suivre l'affaire sur Cause Commune. Et puis, à l'occasion, si on passe à Douarnenez, on prendra rendez-vous pour discuter. Et surtout, si jamais le film passe à Paris et que la réalisatrice passe, elle sera la bienvenue sur notre plateau à Cause Commune dans Liberté.
Je l'ai vu, mais ça va sûrement être diffusé à Montreuil dans pas très très longtemps.
Très bien.
Intéressé.
Eh ben super, très bien. Eh ben on ira et on fera savoir. Merci beaucoup.
Super.
Et puis bon courage, parce que la lutte va continuer et devenir de plus en plus tendue, je pense. Mais bon, c'est pour la bonne cause et on espère que ça aura une issue tout à fait favorable. Mais bon, il va falloir tenir. Voilà.
Mais merci beaucoup. On prend tous les messages d'encouragement.
Merci Georges. Et un grand merci à Gilles Brézard qui a, m'a alerté sur cette situation. On écoute tout de suite La Ville en Feu.
Falgar sur ton terroriste d'état capitaliste. Parmi tous les têtus dis qui capitulera personne. Tiens t'en fais une tête, on dirait que ça t'étonne. Notre ténacité tentaculaire autant que ton monde est triste. Tu dis qu'il y a le cas, sa moyenne répare un peu l'âme. Comment vivre en se sachant méprisé. En roue libre comme un moteur débridé. On fait du bruit quand je vois les rues dépavées. Les faces des bourgeoises délavées. Je me dis que ça se passe tout simplement comme ça devrait. J'aime mes camarades dans leur grande diversité. Toi tu les méprises, tu dis qu'elles brûlent. Mais que faire d'autre quand on n'écoute pas quand tu hurles. Quel que soit le ton, tu refuses d'entendre parler de nos conditions. T'es même pas capable d'écouter l'Orchestre National de Lyon. La honte, les gens sont pas des objets, les gens sont pas tes pions. Hé bourgeoise, écoute-moi, les gens sont pas tes bouffons. On aime voir la ville en feu. On aime voir la ville en feu. On aime voir la ville en feu. Pas parce qu'on est violent, parce qu'on est malheureux. On aime voir la ville en feu. On aime voir la ville en feu. Malheureux. Maintenant la réforme est passée, ça ne passera pas. Y'en a assez, se laisser gouverner à grand coup de 49-3. Tu dis qu'elle casse, mais c'est toi la bourgeoisie qui nous casse le dos, qui nous casse la vie. Les beaux quartiers brûlent et tu qualifies cela de vandalisme abscond. Pourtant c'est très clair, c'est l'éclatement du moralisme à la con. Dans un monde où une minorité domine la grande majorité, il est évident qu'à nos violences c'est pensé par les maçons. Les injustices et les violences amassent. Les protestations se font dire et gazer dans la nasse. Le peuple ne pliera pas en silence comme tu le souhaites, car la résistance est commune et rien ne l'arrête. Tu dis qu'elles détruisent alors qu'elles construisent notre avenir. À nous la jeunesse qui haïssons ce monde et à nos camarades des générations passées. Aux enfants à naître et à ceux déjà nés. On sait qu'on a raison d'être là et que toi t'es qu'un lâche. Pas parce qu'on est violent, parce qu'on est malheureux. On veut voir la ville en feu. On veut voir la ville en feu. On veut voir la ville en feu. Pas parce qu'on est violent, parce qu'on est malheureux. On veut voir la ville en feu. On veut voir la ville en feu. On veut voir la ville en feu. Pas parce qu'on est violent, parce qu'on est malheureux. On veut voir la ville en feu.
Et voilà, c'était Az Muzazi, La Ville en Feu sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole. Et on se quitte vraiment cette fois avec Flor Del Fango, Dame Venemo. C'est un morceau un peu plus récent que ceux qui ont été créés à l'époque. À l'époque, c'est au tout début des années 2000, fin 90-2000, dans ce squat qui était rue de la Grange-Aubelle. C'était le squat de la Grange-Aubelle et plein d'artistes y sont passés. Ce sont des lieux, il y en a eu pas mal à Paris, beaucoup se sont malheureusement un peu institutionnalisé, sauf comme le rappelait Georges, la parole errante à Montreuil, qui est toujours un endroit qui a gardé son âme, l'âme d'Armand Gatti. Mais voilà, beaucoup de squats ont disparu, beaucoup se font discrets et sont des lieux uniquement d'hébergement et beaucoup moins de création parce qu'il y a une telle crise de l'accueil du logement d'urgence que il faut absolument loger les gens et le délogement se fait tellement plus aisément. Y compris avec des milices privées parfois dans Paris, que l'idée c'est d'être discret quand on ouvre un lieu. Donc ces fourmilières qui étaient les squats au début des années 2000 ont un petit peu disparu dans la capitale française. Allez, on se quitte avec Flor Del Fango. Merci à tous, merci à Gilles et on se retrouve très bientôt en direct.
enamora. Que mira si eres presumido. Ay, mira si eres presumido. Ay, que traje de los domingos, donde lo sacas mi dormido.
Cara de pena, ay, porque todo sale luya, ya no tiene más veneno.